Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes en direct dans votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5. Il est 17h passé de quelques secondes. Et tout d'abord, on va dire bonjour à notre invité Samuel qui travaille au Château d'Amboise. Bonjour Samuel. Je n'avais pas allumé le micro, je suis désolée.
Je recommence, c'est pas de problème. Bonjour Chloé et bonjour à tous et toutes.
Voilà, si je galère autant, petite info, c'est parce que Alexandre est malade, donc on l'embrasse de loin. On va commencer tout de suite par l'animasso que nous n'avons pas passé hier, car un autre absent aujourd'hui, c'est Julien et sa chronique, donc on part tout de suite sur l'animasso. What you gonna do now? Il est 17h et vous êtes en direct dans votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5. Et comme tous les mardis, c'est AnimaFac pour leur AnimaSo. Bonjour les filles.
Coucou.
Bonjour, c'est AnimaFac.
Ah bon, coucou, c'est AnimaFac.
Aujourd'hui, pour notre AnimaSo, on accueille Claire de l'asso asso.com qui va nous présenter son asso. Bonjour Claire.
Bonjour. Bien oui, je représente donc l'association étudiante.com. Donc c'est une asso qui représente les deux promotions du DUT information communication, l'option communication des organisations. Et donc je suis la présidente de cette association. Dans le bureau, nous sommes 7. Et cette association existe depuis 2008.
Ah oui, donc ça commence à faire un petit peu quand même.
Oui, un petit peu.
On a reçu des assos et ça faisait 3 ans, 2 ans. D'autres, ça faisait 30 ans. Ouais. Mais déjà, un peu 11 ans, c'est vraiment pas mal.
Ouais. Et du coup, dans votre association, vous avez quels autres rôles et statuts? Ça se passe comment?
Alors, il y a deux commissaires aux comptes, une secrétaire, une vice-présidente, bien sûr, une trésorière et une chargée web. Donc, oui. Celle qui s'occupe donc, du community management.
C'est trop cool, vous avez même une community manager dans votre asso, c'est...
Même des commissaires aux comptes. Ouais. Moi, j'ai tiqué là-dessus.
Elle est très active. Enfin, on essaie de relayer aussi tous les événements de la ville de Tours, les promotions qui existent, et pas seulement nos actions. Tout ce qui dynamise la vie étudiante et qui pourrait intéresser les étudiants de première année comme ceux de seconde année.
Ah, c'est super ça, ça fait un petit peu un petit calendrier des assos histoire de stimuler les étudiants que vous touchez en fait.
Voilà, sur Facebook et sur Instagram aussi.
Du coup c'est quoi Facebook et Instagram? C'est asso.com
Asso.com aussi.
Ouais. Ouais, et on précise .com c'est P-O-I-N-T, com et pas
ouais.
.com.
C'est vrai que nous on s'était déjà fait avoir donc
ouais.
C'était pas mal.
Mais super jeu de mots en plus pour l'association. Encore un super mot. Oui, je vais essayer de parler près du micro. On va m'entendre.
Parce que vous pouvez pas le voir, mais depuis tout à l'heure, on essaie de relever le micro de Madeline. Et on parle dedans.
Et on fait des signes derrière. Je vous vois.
Je vois la table de mixage, ça marche pas, les gars.
C'est bon, je suis là.
J'en ai perdu le fil. Voilà, bravo.
Le fil bleu.
Wow.
Le fil électrique du micro.
On est dans les blagues, j'allais dire ce matin. Putain. Voilà.
Anima blague.
Anima blague, yes. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Si, du coup, hormis le fait de relayer du coup, les informations, c'est vrai, du coup, des autres événements, vous faites quoi comme projet ou comme événement, du coup, avec votre asso?
Alors, comme tous les BDE, notre objectif aussi, c'est de créer une sorte de cohésion entre les deux promos, de première année, de deuxième année. De permettre aux étudiants de se connaître entre eux, de consolider les liens. Et donc, en début d'année, on a organisé l'après-midi d'intégration, suivi du week-end d'intégration qui a eu lieu donc, en septembre. Et après, pendant l'année, donc, on essaye de faire des partenariats. Donc on en a eu un avec un bar Place Plumereau. On aimerait aussi offrir des places de ciné. Donc on essaye de faire des partenariats avec des cinémas locaux de Tours. Et sinon, donc on a tous les projets tutorés des étudiants de deuxième année qui arriveront au cours de l'année 2020. Et il y en a un qui arrive donc fin 2019. Et ces événements donc permettent de dynamiser aussi la vie étudiante. Donc on communique beaucoup là-dessus.
Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu plus en quoi ça consiste le projet tutoré du coup?
Alors le projet tutoré, c'est un projet qui est mené sur 2 ans. La première année, c'est vraiment un stade de... Enfin, le projet est en stade de préparation. On est accompagné par, par notre professeur ainsi que, qu'une tutrice ou un tuteur. Donc la deuxième année, c'est le moment où s'achève le projet tutoré. Et souvent, ça se termine par un événement. Il y a toute une communication en amont, aussi en aval autour de l'événement. Souvent, il y a un événement ou une création.
D'accord, c'est super vraiment pour le coup. Et c'est pas forcément le même aboutissement en fait.
Non, pas forcément. Par exemple, il y a un projet tutoré, leur but c'est de faire une map sous forme de journal. Donc ils n'auront pas d'événement, mais ils auront donc une map. Et c'est tout aussi important, enfin comme projet tutoré, un projet tutoré ne doit pas forcément avoir un événement.
D'accord.
Du moment qu'il y a toute une communication autour, c'est l'objectif et ce qui est demandé d'ailleurs dans notre formation.
Pratique pour une asso de... d'infocom du coup.
Ouais.
Et du c'est coup, super. Désolé pour la précision, mais une map, c'est-à-dire
une map, donc ce sera en fait une carte de tour.
Ah ok, une map dans ce sens-là, ok, parce qu'il y a les maps dans les jeux vidéo. Enfin, je sais pas.
Je pensais à ça aussi, je me suis dit, waouh, ça, ça me plaît.
Et... Comment ça, une map? Mais oui, une carte, du coup, parce que traduction en anglais. Ok.
Je peux en dire un peu plus, ouais. Ce projet tutoré, donc il s'appelle Les Chaussettes Vertes. Il est défendu par 5 étudiants, donc du DUT de deuxième année. Et ils vont essayer donc, de relayer toutes les actions des initiatives en fait, éco-responsables des acteurs de la ville de Tours, comme les commerçants, les associations. Et donc leur objectif, c'est de créer une map, donc une carte de Tours, où seront précisés l'emplacement de tous ces commerçants, de tous ces tourangeaux qui ont des actions éco-responsables.
C'est vraiment super génial comme projet.
Ils ont également donc, une page Facebook, Les Chaussettes Vertes et un compte Instagram.
C'est trop mignon, j'adore.
Les Il y a déjà vertes. Des reportages qui sont accessibles et disponibles.
Ouais.
C'est super, c'est trop cool, c'est le genre de truc qui manque un petit peu à la ville au niveau de l'éco-responsabilité et tout.
C'est ça.
Ah, c'est trop cool, génial. Je crois que ça peut même nous intéresser, nous.
Ouais. Il y a toujours moyen. Et du coup, j'imagine que les deuxièmes années aident les premières années pour... le prochain, enfin pour leur projet à eux, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des parrainages? Est-ce qu'il y a des...
Alors, pas forcément, mais par contre, l'association donc, donne 100 euros par projet tutoré. Donc, les premières années, ils peuvent donc nous voir pour nous demander ces 100 euros sous présentation donc, d'une demande, d'un vrai besoin. Et à ce moment-là, nous, on peut donc leur donner les 100 euros qui leur sont donc réservés, on va dire. Ils peuvent nous demander des conseils, bien sûr. Les deuxièmes années, on est toujours là pour leur donner des conseils sur la réalisation, l'organisation d'un événement, toute la communication aussi. Comment faire un communiqué de presse, un dossier de presse. On nous a encore demandé hier, d'ailleurs, comment en rédiger un. Et c'est sympa de pouvoir aussi de partager ses connaissances.
Ouais, comme tu le disais tout à l'heure, du coup, c'est vrai que vous êtes là aussi pour la cohésion. Et du coup, aussi bien à travers les soirées, les week-ends, il y a de la cohésion, mais aussi à travers vos projets. Donc c'est super cool. C'est, ouais, c'est vraiment génial de trouver de la cohésion un petit peu partout dans votre asso. On aime bien.
Ouais. Et du coup, toi, t'es en deuxième année.
Oui.
Et ton projet de tutoré à toi, c'est quoi?
Alors, donc, je suis porteuse du projet Dépistons-nous, qui a pour objectif de sensibiliser les étudiants de l'université Tours au dépistage. Et donc, on a réussi à organiser un événement qui aura lieu donc vendredi prochain sur le site de l'IUT, donc en partenariat avec le SSU.
Le SSU,
Service Santé Universitaire. Qui est situé donc au Plat d'Étain, qui organise des actions donc dépistage, plusieurs mardis dans le mois d'ailleurs, sur réservation. Et nous leur avons proposé donc en début d'année qu'ils nous accompagnent pour créer un événement sur un site universitaire.
C'est vraiment génial en fait, vous avez plein d'idées trop cool.
J'ai des étoiles dans les yeux à chaque fois quand tu parles, je me dis mais c'est trop cool vos projets.
On voulait que ce soit un peu, en quelque sorte, le dépistage qui se déplace à l'étudiant plutôt que l'inverse.
Oui.
Pour pouvoir toucher aussi une cible qui n'oserait pas se déplacer pour se faire dépister.
Oui, et surtout qu'il peut y avoir un manque d'informations à ce sujet-là et donc que l'information vienne et que vraiment ce soit rendu plus accessible, c'est super important.
Exactement, et oui, je ne sais pas si j'ai précisé, mon dépistage des IST, infections sexuellement transmissibles.
Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que le fait que ce soit sur un endroit universitaire, vous n'avez pas peur que ça dérange un peu les gens de se montrer dans une soirée de dépistage, que ça les,
alors,
ça les bloque de venir?
Ce sera sur la journée de 9h à 13h30 et notre communication est aussi axée sur la confidentialité. On a précisé donc les salles où se dérouleront les prélèvements et aussi l'entretien avec le médecin déjà en amont. Et donc, moi non, je n'ai pas... au niveau de la confidentialité, elle sera... Enfin, elle est précisée dans nos affichages.
Non, bah c'est cool. Parce que je pense que se dire, ouais, s'il y en a qui sont au courant, que je vais me faire dépister parce qu'ils ont peur, je pense que ça peut les bloquer un peu. Mais s'ils savent que par derrière, c'est confidentiel, je pense que ça peut booster justement.
Ouais, au contraire, genre, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes étudiants qui sont en mode, je sais pas où aller, je sais pas comment aller me faire dépister, quelles horaires, machin. Donc si là, il y a l'événement et qu'en plus, il y a la confidentialité, c'est tout bénef parce que c'est vraiment du coup un sujet très fort de notre de la jeunesse maintenant, en fait.
Et vous avez raison, enfin, de questionner ce point, parce que c'est un sujet assez délicat, finalement, assez tabou, et c'est dommage. Enfin, c'est vraiment, pour ça aussi qu'on a créé ce projet tutoré.
Ouais, c'est super cool. Pouvoir avoir un entretien avec un médecin avant aussi, c'est super cool. Plutôt que ce soit vite, enfin, pas vite fait, mais juste le pré, enfin, que ce soit fait en pas longtemps et sans conseil ou sans pouvoir se mettre au point. Avoir des informations.
Désolée, hier, on était en formation jusqu'à pas d'heure, donc il y a un peu de fatigue.
C'était pour le boulot. Donc,
formation.
Si, il y avait peut-être un buffet, mais bon.
Ouais, il y avait un petit buffet à la fin.
C'était formel.
Dont on a bien profité. Oui. Mais non, ouais, c'est vraiment super. Donc pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas, c'est vendredi proche. Enfin, c'est vendredi,
voilà,
là.
Vendredi 6 décembre.
Ouais. De 9h à 13h30.
Exactement.
À l'UT de Tournord.
Et il y aura une animation d'ailleurs sur les représentations du corps par une conseillère conjugale donc du SSU, Service Santé Universitaire, qui sera dans le hall et qui pourra donc toucher un maximum d'étudiants dans le hall, qui est vraiment un lieu de passage à l'UT et qui pourra donc enseigner aussi les étudiants sur le dépistage. Et nous, on sera là. Donc les trois membres du projet Dépistons-nous seront présentes dans le hall pour pouvoir aussi guider tous les étudiants qui souhaiteraient se faire dépister.
Ah mais c'est génial, il y a une animation, il y a... Oh non, c'est trop cool.
Il y a un conseil, un accompagnement, c'est vraiment trop chouette.
Grave.
Du coup, représentation du corps, ça consiste en quoi? C'est...
Alors on n'a pas plus d'informations, okay. Et c'est voulu.
D'accord.
C'est justement pour... Pour réveiller aussi la curiosité.
Ok, bah ouais,
et
en
le petit
teasing.
Grave.
Ça laisse place à plein de sujets trop cool.
Le mystère de l'IUT. Voilà, ça sera ça.
C'est ça.
Oh, c'est génial.
Et donc sur notre événement Facebook, bah, qui est disponible sur l'asso.com, on précise tous les documents qu'il faut apporter pour que ce dépistage soit sans avance de frais pour l'étudiant.
Ah. Ça aussi, c'est super important.
Mais si c'est pas parfait, tout ça,
ouais.
C'est génial. On adore. On voulait poser du coup une dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres événements dont tu voulais nous parler par rapport à ton association?
Oui, bien sûr. Donc, il y a deux autres projets qui seront portés par l'association.com. Donc, l'initiative Lumière, qui est une campagne de sensibilisation sur le harcèlement de rue. Donc, cette campagne de sensibilisation aura lieu dans des lieux publics comme la rue, les transports en commun ou encore les bars.
Encore un sujet trop...
Mais trop cool, mais grave.
Et le projet Jeune ne veut pas se taire. Donc Jeune ne veut pas se taire a pour ambition de réunir de jeunes projets musicaux au sein d'une compilation numérique. Cette initiative est soutenue d'ailleurs par les défricheurs de talents Agama Poitiers, une asso donc qui accompagne des groupes, et La Souterraine, qui est un label.
Oh, trop cool.
Donc un appel à candidature sera ouvert pour repérer les pépites musicales qui figureront sur cette future compilation. Donc, avis à candidature, ces deux personnes, donc, qui sont des étudiantes, recherchent des groupes ou artistes solo de 18 à 25 ans qui chantent en français et qui ont au moins un morceau enregistré.
Mais c'est trop cool.
Trop, trop bien.
Et ben voilà, si vous ne l'avez pas compris durant ces quelques minutes, asso.com, c'est juste génial. Ouais. Et ben on te remercie, Claire.
Merci.
C'est super cool et je pense que là, tu as déjà trois conquises par rapport, oui, au projet que tu as donné.
Chouette.
N'hésitez pas à aller voir toutes leurs infos sur Facebook et Instagram.
Asso.com, P-O-I-N-T.
C'est ça, n'oubliez pas les lettres. Merci Claire.
Merci à vous.
Et merci AnimaFac.
Yes.
Et puis bah, à la semaine prochaine, les filles.
Oui. Yep, à la semaine prochaine.
Et voilà, encore une animasso de... Rodé. Et donc du coup on va partir sur notre petit titre avant l'interview et ce sera Moi je fais rien avec le remix de Petit Biscuit.
Thank you.
en est toujours en direct pour votre émission Sortez sur Radio Campus. Et puis bah, tout de suite, on va passer avec notre invité Samuel du Château d'Amboise qui est venu nous parler de l'événement Noël Rêve d'Enfance, le Roi Nounours. Alors tout d'abord, Samuel, est-ce que vous pouvez vous présenter vous ?
Oui, bien sûr. Donc je suis Samuel, je suis le chargé de communication et chargé de pas mal de choses au Château d'Amboise. Donc bah, mon métier, ça va être de faire vivre, de faire connaître le Château Royal d'Amboise. Hein. On en redit peut-être un petit mot, Chloé, sur le Château d'Amboise. Un des grands châteaux de la Loire, le château où il y a la tombe de Léonard de Vinci, le château des rois de France à la Renaissance, François Ier, Charles VIII, ça doit vous parler un tout petit peu. Ça a peut-être quelques souvenirs de lycée. Et puis un très beau château qui est ben, accroché entre la Loire et puis le ciel, là, Amboise, hein, sur ce promontoire rocheux avec une superbe vue, c'est magnifique. En été, au printemps, on a des magnifiques vues, on peut faire des petits pique-niques superbes avec le coucher de soleil. Donc bah voilà, je vous invite vraiment à venir à ma rencontre et à la rencontre de mes collègues. C'est juste à côté de Tours, c'est à une petite demi-heure.
Et du coup, Noël, rêve d'enfance, qu'est-ce que c'est en somme, dans les grandes lignes ?
Alors Noël Rêve d'Enfance, donc c'est un parcours, en fait c'est une installation qu'on met en place au château pendant un peu plus d'un mois, hein. Ça a commencé le week-end dernier, ça courra jusqu'au 5 janvier, donc après les fêtes. L'idée c'est de venir décorer le château, animer le château, mettre en ambiance le château autour de quelque chose qui est un peu souriant autour des fêtes de Noël. On sait qu'aujourd'hui, le mois de décembre, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, chez vous, mais c'est le moment où on va retrouver la frangine, le frangin, les parents, éventuellement les grands-parents. On n'a pas trop eu le temps de les voir l'été parce qu'on court à droite à gauche. Donc voilà, c'est le dernier moment un peu où on peut se retrouver en famille et qu'on peut avoir envie de faire des choses ensemble. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir le port du château. Bon, vous n'êtes pas forcément peut-être fan d'histoire, peut-être que ça vous branche pas spécialement de parler de François Ier et de Léonard de Vinci. Mais à travers une exposition comme celle-là, qui est plutôt amusante, qui est rigolote, hein, faut imaginer des gros ours en peluche un peu partout avec des petites scènes rigolotes. Ça peut être l'occasion de franchir les portes du château et puis de redécouvrir un lieu qui est quand même plutôt sympa. Donc pour répondre à votre question, Chloé, c'est ça, Noël rêve d'enfance, le Roi Nounours. C'est un parcours scénographique, donc dans chaque salle du château, on a fait des petites installations autour de l'ours en peluche.
Pourquoi l'ours, du coup ?
Bah parce qu'il faut bien commencer quelque part. Donc notre cycle, on a un cycle de 5 ans donc qui est vraiment sur les rêves d'enfance. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée, le travail, ça va être de se dire qu'est-ce qui va être fédérateur, qui va parler à la fois aux petits frères, à nous, à nos parents, éventuellement à nos grands-parents, dont on va pouvoir parler sans se gonfler les uns les autres. Et ben ça, c'est un peu les souvenirs de l'enfance. Donc on va comme ça, année après année, on va décliner des choses qui vont nous rappeler des agréables moments de quand on était plus petit. Et donc, bah, pour commencer, on a commencé par la pluche. Et on s'est dit, bah, quelle est la pluche la plus emblématique ? Et bah, ça va être l'ours en pluche. Donc, c'est comme ça, ça part d'une petite idée. On tire sur un fil. On est autour d'une table de nos bureaux. On se dit, bah, pourquoi pas ? Et puis, hop, c'est parti. Donc, on est resté sur ce thème.
Très bien. Et du coup, qui organise cet événement ?
Alors, l'événement, en tant que tel, il est organisé par les équipes du château. Hein, c'est vraiment. Alors, ça, c'est vrai que votre question est intéressante. On pourrait, sur une proposition comme celle-là, avoir un scénographe, faire appel à quelqu'un qui viendrait tout vous installer de A à Z, vous me donner un chèque et puis au revoir monsieur, au revoir madame. Nous, c'est pas le choix qu'on a fait, c'est vraiment de se dire que toutes les équipes du château d'Amboise, on a une trentaine de personnes à travailler au château. Eh ben, on va essayer de s'y mettre et puis de construire nous-mêmes le parcours. Donc, on a nos jardiniers, on a 5 jardiniers au château qui ont construit tous les décors végétaux pour accueillir les ours. On a un certain nombre de personnes qui ont joué les scénographes, donc qui ont réfléchi, quelle scène, pourquoi, à quel endroit, est-ce que c'est marrant, voilà. On a notre Thierry National, qui est notre technique, responsable technique, qui a installé des cadres, parce qu'on a fait une espèce de galerie des illustres, où on a remplacé les personnages célèbres par des ours célèbres.
Oh,
voilà,
génial.
Voilà, on a Winnie l'ourson, on a Ted,
oh,
on a plein
cool.
De... ça, c'est plutôt rigolo. Donc, voilà. En tout cas, c'est construit par l'équipe du château pour les visiteurs.
Dans le château, pour le château, par le château.
Exactement.
Comme ça, on y est.
C'est du 100% homemade.
Et du coup, peut-être que le château aussi, c'est pour renforcer un peu le côté magique de l'esprit de Noël et des nounours, parce que c'est pas un endroit où on est habitué à voir des oursons, en fait.
Oui, voilà. L'idée, c'est de donner une atmosphère et de donner corps un peu à une ambiance dans ce château. Bon, vous le savez, hein, vous savez peut-être pas d'ailleurs, les grands châteaux de la Loire, ils sont ouverts tous les jours. Donc, ils sont ouverts effectivement en été, ils sont ouverts au printemps, mais ils sont aussi ouverts en hiver. Et c'est vrai que l'ambiance y est un peu différente. On va commencer à avoir un peu de givre dans le jardin, on va avoir un peu froid, on va avoir notre petit blouson, notre petit bonnet. Et puis, bah, dans le château, nous, on installe, par exemple, on met le feu de cheminée. On a les feux de cheminée en ce moment. Donc, il y a une espèce de petite ambiance entre le cocooning et puis l'avant de Noël qui est super sympa. Et c'est vraiment ça. Donc, l'ours est un prétexte. Hein. L'année prochaine, on partira sur autre chose. Mais en tout cas, l'ours en pluche est un prétexte pour venir tâter du doigt un peu ce moment. Sympa.
Peut-être pour rappeler aussi la magie, moi, c'est la première chose que je me suis imaginée en lisant ça, c'est un peu dans le même style que Harry Potter, quand on le voit dans le grand château, sur les veilles de Noël, tout est illuminé, tout est plus doux.
C'est ça, le temps s'arrête un petit peu, on est aussi dans l'univers du conte, on a tous en tête, je sais pas, Boucle d'or et les trois ours, enfin je sais pas si votre génération a encore ça,
si, quand même.
Voilà, petit ours brun, il y a plein de choses, donc on est effectivement dans quelque chose d'assez léger, d'assez amusant. Qui va nous amener peut-être à une soif de connaissance pour aller plus loin sur l'histoire du château. Mais effectivement, on fait coïncider les scènes qu'on a organisées avec les ours. Il y a à peu près une scène par salle. C'est jamais innocent. C'est-à-dire que la scène est corrélée à la fonction ou l'histoire de la pièce. La pièce principale étant la grande salle royale avec le trône. Et donc là, on a mis un ours de 2 mètres, 2 mètres 20 même exactement, avec une couronne à la place du roi. Donc pour bien expliquer qu'on était dans la salle où régnaient les rois de France. Et que là, très temporairement, c'est le roi Nounours qui est venu occuper le trône.
Bah, c'est super intéressant parce que du coup, ça part dans le sens de... Les personnes viennent un peu pour se relâcher en se disant on se prend pas la tête avec des ours, mais au final, tout le monde apprend quelque chose sans s'en rendre compte. C'est bien fait.
C'est le propos, c'est-à-dire qu'il s'agit pas de vous faire rentrer à tout craint des notions historiques dans la tête. Si vous voulez juste venir vous amuser des ours parce que les scènes sont assez rigolotes, les ours sont plutôt drôles et que ça vous suffit, c'est pas un problème, au contraire, voilà, très bien. Et puis si vous voulez en profiter pour vous dire ah oui tiens, effectivement, ça me fait appel à une petite connaissance historique, bah pourquoi pas, on sera content aussi. L'idée c'est qu'il y en ait pour tout le monde à cette période de Noël. Comme vous voulez, le terme de se relâcher, c'est bien. À Noël, on a le droit de se relâcher, on a le droit de relâcher un peu la pression. Et de vivre ça de manière très, très simple et ludique.
Et très enfantine, parce que c'est vrai que Noël, c'est vraiment repartir en enfance. Tous les ans, on voit des grands, comme on peut le dire, qui retombent un peu bébés et qui aiment bien jouer dans la neige, par exemple. Si, pour citer des choses comme ça, ça peut permettre aussi de rappeler à des adultes qui viendraient voir que on a tous toujours notre part d'enfance en nous, en fait.
Ah bah c'est exactement ce qu'on a. Enfin, nous, la scénographie est en place depuis une semaine. Les premiers retours qu'on a, en ce moment, on a peu d'enfants puisque c'est pas les vacances scolaires, donc on a plutôt des visiteurs adultes et étrangers. Et on voit des attitudes qui sont très drôles. On a vraiment j'ai vu deux jeunes filles asiatiques. Les asiatiques sont très fans de selfies, effectivement, mais en tout cas, elles étaient à côté du gros ours, ça marchait, quoi. Ça marchait. On a vu une famille américaine aussi qui ont adoré la galerie des illustres. Donc oui, il y a un côté un petit peu retour en enfance qui marche assez bien.
Et du coup, pour revenir sur les choses un peu plus sérieuses avec des gros guillemets, j'ai vu que ça s'inscrivait dans un événement qui s'appelle Noël au Pays des Châteaux. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, parce qu'on n'est pas tout seul. Donc moi, ce que je viens brillamment de vous présenter, c'était au titre du château d'Amboise. Mais il faut savoir que cette opération-là, en tout cas cet événement, s'inscrit dans quelque chose de plus large qui s'appelle Noël au Pays des Châteaux, qui associe 7 châteaux du coin, en tout cas du département. On va peut-être les citer rapidement. Château d'Azel-Rideau, château d'Amboise, donc c'est nous. Château de Chenonceau, le château, vous savez, en forme de pont, qui va sur la rivière. Le château de Chinon, le château de Langeais, la cité royale de Loches et le château de Villandry. Donc c'est sept châteaux, c'est pas facile à dire. Chacun, sur cette même période du mois de décembre, organise un parcours comme chez nous, mais sur des thèmes différents. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que chacun fasse la même chose et que si on visite 3 châteaux, on voit 3 fois la même chose. On s'est entendu entre nous, parce qu'on s'entend bien entre nous. Ouais, on est plutôt copains. Et donc, on s'est dit, voilà, toi, tu vas faire... moi, je fais les ours. Toi, tu vas faire le sapin. Toi, tu vas faire les contes de Noël. Toi, tu vas faire les décorations florales. Enfin, voilà, chacun a un thème. Ce qui fait que si, par bonheur, nos auditeurs auraient envie de faire plusieurs châteaux, ils trouveront... au gré de cette opération, des choses fondamentalement différentes d'un site à l'autre. Donc c'est histoire d'être vraiment complémentaire.
Et qui peut-être peut les pousser en visitant un château à se dire moi j'ai bien aimé celui-là, mais qu'est-ce qu'il y a dans les autres ?
C'est ça. L'idée c'est de partir sur un petit esprit de collection, c'est-à-dire qu'on en fait un, on en fait deux. Alors, on n'est pas obligé de tous les faire cette année. L'opération se renouvelle. Là c'est la quatrième saison qu'on travaille sur cette opération-là. Donc elle sera de nouveau renouvelée l'année prochaine, donc on peut se donner des objectifs raisonnables. On peut se dire, moi cette année j'en fais deux, j'en fais trois, et puis les autres je les ferai l'année prochaine par exemple. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment de se dire qu'à travers Noël, on va redécouvrir des sites quand même qui sont majeurs dans le patrimoine français et qui sont à côté de chez nous quoi.
Ah oui. Mais vous venez de dire 4e édition, ça veut dire qu'il y en a eu 4. Et qu'est-ce que c'était les précédentes du coup?
Chez nous par exemple.
Oui, en Oise. Surtout,
alors en Oise, nous, alors si on prend à rebours, l'année dernière, on a travaillé sur les anges. Donc là, on avait travaillé sur. Il s'avère qu'on avait énormément d'anges dans les décors du château. C'est quelque chose qui. C'est une chance, hein. Donc ça, les anges sont aussi un personnage un peu emblématique de Noël. Il y a 2 ans, on a travaillé sur les couronnes. Donc là, vraiment, la symbolique de la couronne, vous savez, la couronne de sapin, ouais. Qu'on va pouvoir décorer. Qu'est-ce qu'on a eu encore auparavant? On a eu les traditions de Noël. Expliquer que Noël, c'est pas. Nous, on a une vision de Noël qui est très contemporaine. Mais que la tradition du sapin, par exemple, c'est quelque chose de relativement récent. L'explication d'avoir des boules, des boules dans un sapin, c'est simplement parce qu'une année, il n'y avait plus de pommes. Et qu'avant, on décorait les sapins avec des pommes naturelles. Et puis, comme toutes les pommes avaient gelé, il y a quelqu'un qui a décidé de souffler des pommes en verre. Et c'est l'origine des boules de Noël.
Oh cool.
Donc voilà, c'était ce qu'on a pu travailler. Donc oui, il y a plein de choses comme ça qui ont pu être évoquées à cette période-là. Quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les précédentes éditions. En tout cas, on peut être un peu chauvin. Allez, soyons un peu chauds, hein, Chloé.
C'est le but.
C'est une opération qui monte en puissance en fait, et l'idée c'est de, aujourd'hui quand on pense Noël, on pense à aller marcher de l'est de la France un petit peu, le ski, et puis pour ceux qui ont un peu d'argent, allez, on part à la Guadeloupe. Mais l'idée c'est de créer ici en Touraine un vrai spot où les gens de toute la France se disent tiens, à cette période de l'année, on pourrait aussi aller voir les châteaux. Donc petit à petit l'oiseau fait son nid, hein, donc on progresse d'année après année, et c'est vrai que là on sent quand même qu'il y a des demandes, il y a des groupes qui commencent à venir et que ça prend. Donc on espère qu'aujourd'hui, bientôt, la Touraine sera bien placée sur la carte de Noël.
C'est tout ce qu'on souhaite, parce que si c'est des projets comme ça qui se développent et qui sont axés sur tout le monde, parce que c'est rare, généralement Noël c'est des événements axés beaucoup sur les enfants et on oublie un peu les adultes qui eux aussi aiment s'amuser à Noël, et ça peut permettre justement de renforcer ça et de présenter Noël à tout le monde, entre guillemets, même aux personnes qui normalement ne se sentent pas concernées par ça.
Bien sûr, et puis rappeler aussi que c'est une période où on a vraiment du monde, on commence à avoir vraiment du monde. Alors c'est pas l'équivalent d'un mois de juillet ou d'un mois d'août évidemment, mais c'est un mois qui dans l'année compte vraiment. C'est-à-dire qu'on a une activité, il y a vraiment du monde dans le château, quoi. C'est important, hein, pour une région comme la nôtre qui vit quand même aussi beaucoup du tourisme. Donc ces initiatives-là, il faut les porter, il faut les encourager, il faut en parler.
Et puis ça permet de découvrir les châteaux sous une autre forme que l'habitude. Justement, l'été, c'est vrai que on visite, on voit les jardins de l'été, c'est joli, c'est fleuri, mais l'hiver, ça doit donner une autre teinte, justement, peut-être à un château.
Exactement. On en parlait tout à l'heure un peu hors antenne. Hein. On attend avec impatience ce petit chocolat chaud, et puis après, on prend son courage à deux mains, on monte, on va au château. Il fait un peu froid, comme je disais, on serre un peu son col. Et puis oui, on est en ambiance, il y a pas la grande foule, on est plus au calme, on a plus de temps. Donc c'est une chouette. Moi j'aime bien cette période, le château.
Ça peut permettre à tout le monde aussi de se rencontrer autour de la cheminée, tout le monde a froid et puis tout le monde discute, même sans visite guidée, tout le monde est là. Ah ouais, regarde, par rapport à cet événement l'ours, regarde celui-là, et puis tout le monde se compare.
Oui, ce genre d'exposition, effectivement, ça fait que les sourires s'échangent rapidement. Puis il y a aussi des enfants qui courent, qui font des remarques qui sont drôles. Donc ça c'est vrai que ça favorise le dialogue entre les visiteurs.
Eh bien, ça va être sur ces belles paroles qu'on va se laisser pour la première pause musicale avec Bon Entendeur et Le Temps est Bon.
Dans le cerveau.
nous revoilà en direct sur, dans votre émission Sortez avec Samuel du Château d'Amboise, venu nous présenter Noël, rêve d'enfance, le roi nounours. Et on va revenir sur un point que vous évoquiez tout à l'heure, vous parliez de scénographie. Déjà, qu'est-ce que c'est une scénographie ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme.
Une scénographie, c'est un mot bien savant pour dire une installation, en fait. On installe une installation qui est un peu pensée et un petit peu réfléchie dans un lieu. C'est un thème très, qu'on utilise beaucoup dans les musées.
Et pourquoi avoir utilisé une scénographie non...
Bah pour que, qu'il y ait une certaine logique dans le parcours. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, vous allez arriver au château, vous allez commencer par la première pièce, les faire les unes après les autres, et puis c'est un moment vous allez sortir. Et l'idée de la scénographie, c'est que vous ayez eu l'impression de suivre quand même un cheminement assez logique et que les choses s'enchaînent de manière chronologique, en gros, surtout en l'occurrence là, sur cet aspect ours.
Mais vous m'évoquiez hors antenne tout à l'heure une scénographie un peu plus scientifique.
Absolument, on en dit des choses hors antenne. Et bah voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout à l'heure on a décrit toutes ces petites scénettes avec la 150aine d'ours présents dans le château, mais on a aussi essayé de travailler, pour ceux qui ont envie de creuser un petit peu plus le sujet, sur le destin de l'ours en tant qu'animal. C'est-à-dire que aujourd'hui, quelle image on peut en avoir ? Celle d'un ours en peluche. Les quelques images qu'on peut véhiculer dans les films qu'on a vus. Mais il faut savoir en tout cas que le destin de l'ours a été tout sauf un long fleuve tranquille. On va dire qu'il est parti d'un statut d'animal quasiment déifié à l'Antiquité, ou chez les Gaulois, où il est le premier roi des animaux, avant le lion, avant le cerf. C'est vraiment l'ours qui est le roi des animaux. On lui accorde la puissance, la force, le courage. Voilà, c'est un animal qui est associé à un certain nombre de vertus. Donc ça, il va conserver ce statut plutôt sympathique pendant un certain nombre de siècles. Et puis, arrivé au Moyen-Âge, il va se trouver confronté à l'Église, en fait. C'est l'Église qui émerge à cette époque-là, notamment sous le règne, par exemple, de Charlemagne, et qui va trouver dans l'ours un animal un peu gênant, puisque l'ours, à l'époque, est très associé aux rites païens. Donc le développement de l'Église va forcément imposer la disparition des rites païens. Donc c'est un animal qu'on va tout d'un coup venir taxer de plein de mauvaises choses. Donc là où il était courageux, maintenant il devient trouillard. Là où il était puissant, maintenant il devient feignant. Il devient glouton. Donc on va vraiment le dégrader. C'est la période où vous avez sans doute ça en tête. On voit les montreurs d'ours. Donc ces gens qui passaient sur les foires du Moyen-Âge avec des ours enchaînés. Donc l'animal est vraiment remis plus bas que terre. Et il va conserver ce statut très dégradé pendant, là encore, plusieurs siècles. Et c'est là que le lion va émerger comme nouveau roi des animaux. Parce qu'il paraît... c'est mieux, voilà, ça, c'est un animal qui est plus noble. Et donc l'ours, malheureusement, va garder ce statut assez longtemps, jusqu'à sa quasi-extinction. C'est à la fin du 19e, début du 20e qu'on va se dire, mais attention, des ours, il en reste vraiment plus beaucoup, et il va peut-être falloir quelque chose. Et puis là, c'est une chose amusante ou souriante en tout cas, l'ours en peluche, tel qu'on le connaît, va contribuer à changer l'image de l'ours dans les mentalités et à en refaire un animal de nouveau sympathique qu'il faut protéger. On peut peut-être citer, allez, on va faire un tout petit peu d'histoire, mais pas d'histoire chiante, promis. On va parler du président américain Teddy Roosevelt. Teddy, ça doit vous dire quelque chose, vous devez peut-être voir où je veux en venir. Donc Teddy Roosevelt était invité à une chasse à l'ours et malheureusement il rentre bredouille. Et les organisateurs de la soirée ne pouvant pas accepter que le président des États-Unis n'ait pas un trophée, lui amène un ourson en fait enchaîné en disant voilà président, si vous voulez vous pouvez tirer sur l'ours et garder le trophée. Et Roosevelt va refuser évidemment en arguant que si jamais il faisait ça, ses petits-enfants ne lui pardonneraient jamais. Donc l'ourson aura la vie sauve. Et puis cette histoire va être reprise dans la presse américaine. Elle va commencer à faire un titre, deux titres, trois titres. Et puis il y a un type qui a dû sans doute oublier d'être bête, un fabricant de jouets qui s'est dit mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est comme ça que va naître le premier ours en peluche, en tout cas au niveau des États-Unis, et qu'on va développer ce Teddy Bear, donc en hommage à Teddy Roosevelt. Donc c'est comme ça que va naître l'ours en peluche. Et puis en parallèle, en Allemagne, il y a une jeune dame qui s'appelle Margaret Steiff. Steiff, vous connaissez peut-être, c'est une très belle marque d'ours en peluche qu'on peut encore trouver aujourd'hui. Chloé,
je ne connais pas.
C'est elle aussi en Allemagne qui, à la même période, va commencer à développer des ours en peluche. Donc vous voyez que cet ours, il va aussi participer un peu à la sauvegarde des ours bruns et des ours...
Moi, je trouve ça fascinant parce que là, on arrive dans un événement qu'on considère peut-être un peu enfantin parce que les ours, maintenant, c'est considéré comme un jouet. Et on apprend plein de choses qui font que, l'ours en plus ne se résume pas juste à une peluche, ça se résume aussi à une histoire avec quelque chose derrière. Moi, je trouve ça fascinant. Là, je suis
Voilà. C'est l'idée. Encore une fois, on se répète, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au départ, on peut y prendre ce qu'on veut, on peut trouver ça juste un petit peu amusant. Et puis en grattant un petit peu, on peut repartir avec deux, trois belles choses qu'on connaît.
Bah, d'où cet événement, justement, de mélanger l'histoire, la connaissance et l'ours en peluche pour pouvoir toucher un maximum de monde et donner des connaissances à un maximum de personnes aussi, je pense.
Exactement.
Eh ben, on va peut-être maintenant se concentrer un peu sur les événements qui composent cet événement, parce que c'est un regroupement d'événements, du coup.
Effectivement, donc vous avez bien compris que là, pendant tous les jours jusqu'au 6 janvier, vous allez pouvoir découvrir ce parcours avec les ours en peluche. Mais en plus de ça, comme on est généreux et grand Château d'Amboise, on vous organise plein d'autres petits événements. Donc je ne sais pas si on va tout lister, on va en dire quelques-uns. En tout cas, il y aura des chants de Noël. Bah oui, c'est Noël, donc forcément, il y a des chants de Noël.
Avec
donc
des chorales,
ça, c'est
ouais.
Le 7, c'est ce week-end, c'est samedi, et puis samedi de la semaine prochaine. C'est plutôt sympa, les chants de Noël. On rigole, on bougonne, on dit pff, les chants de Noël, mais quand on les entend sur le moment.
Tout le monde chante.
Ah, ça frissonne, on a un peu les poils quand même qui frissonnent, c'est quand même toujours très sympa.
Ça rappelle forcément des souvenirs à tout le monde.
Si vous avez des petits frères, des petites sœurs, on a deux spectacles pour les petits. Donc là, on va dire plutôt 7-10 ans. Donc La vieille malle au fond du grenier. Et oui, messieurs, dames, c'est le titre. Donc ça, ce sera le 26 décembre. Et puis, on en a un autre le 3 janvier. Donc là, ce sera des contes pour les enfants. On va avoir... la démonstration de bourrage d'ours, puisque c'est le terme qui est utilisé, soyons lâchons-nous. Donc là, c'est les couturières des Petites Maries, donc c'est la société partenaire, c'est une société qui est en région centre, c'est la dernière société à faire des ours en peluche 100% français, ils sont installés à Châteauroux.
À les soutenir,
si vous avez un ours en peluche achetez-le plutôt chez eux. Et donc deux de ces dames vont venir le 27 décembre pendant tout l'après-midi pour faire une démonstration. En gros, vous montrer comment on fabrique un ours en peluche de qualité. Parce que moi, pour les avoir eu en main, je peux vous dire que la qualité de l'ours en peluche, elle est vraiment remarquable. C'est des objets, on en parlait tout à l'heure, qui vont vous accompagner toute votre vie. C'est-à-dire que vous l'achetez maintenant, il vous accompagnera un bon paquet de temps, je pense.
Le fameux ours en peluche que nos grands-parents avaient et qu'ils ont toujours dans leur grenier.
Ouais, parce qu'ils sont tout à fait inusables, quoi. Et puis, je terminerai alors là plutôt rendez-vous pour les gourmands. Donc là, notez bien à l'agenda, jeudi 2 janvier, donc avec la Fédération des boulangers d'Indre-et-Loire. Donc là, c'est le concours de la meilleure galette des rois. Donc pour les gourmands, c'est un peu le paradis en fait. Hein. Imaginez-vous qu'il y a une soixantaine de galettes à goûter. Il faut toutes qu'on les goûte et puis qu'on dise laquelle est la meilleure. Donc voilà, il y a une catégorie frangipane, la grande classique. Et chaque année, on a une catégorie revisitée. Et là, je vous le donne dans le mille, cette année, c'est revisité au chocolat.
Oh,
donc autant dire que 2019, c'est cadeau.
La bonne nouvelle.
Donc l'élection se passe en journée en fait. Et puis donc tous les visiteurs qui viennent en fin d'après-midi sont invités dans la grande salle. Donc là, on met toutes les galettes sur des tables. Et c'est servez-vous.
Bonheur.
Vous goûtez, alors vous pouvez goûter celle qui a gagné, vous pouvez goûter celle qui a pas gagné, enfin voilà. Donc c'est un rendez-vous sympa, c'est la troisième année que ça se fait au château. Donc on vous attend parce que je vous dire qu'il y a un sacré paquet de galettes à manger et on n'arrive jamais à tout finir.
Ça c'est la magie de Noël, les galettes au chocolat, là on est en plein dedans, là on est pas mal. J'ai juste vu aussi que du coup le lundi 30 il y avait un atelier création, qu'est-ce que c'est?
Alors oui, je l'ai pas évoqué, et ben en fait c'est celui-là. Qu'est-ce que je dis? Je dis une bêtise. Ça, c'est ma collègue Ayette. Salut Ayette, si tu nous écoutes. Qui anime les ateliers chez nous et qui là va faire des petits objets de décoration avec des mini-oursons. Elle a réussi à trouver des petits ours de 2-3 cm. Donc, on va pouvoir faire des petites. Les enfants pourront faire des petites créations à ramener chez eux avec des ours.
Les enfants seulement?
Oui, là, c'est des ateliers pour les enfants. Après, bon, on peut peut-être faire une petite... s'il y a une jeune fille qui veut absolument y aller, on pourra faire une exception. Mais ça reste quand même une animation pour les enfants.
Et est-ce qu'on peut faire comme si on était une enfant, si on se met sur les genoux pour venir? Je sais pas, je demande, c'est pour une amie.
Ça peut se tenter.
On verra bien.
Ça peut se tenter.
Mais, je me suis perdue dans mes pensées, c'était fait.
Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de choses chez nous. Hein,
oui.
Et puis, il y a aussi plein de choses dans les 6 autres châteaux qu'on a évoqués tout à l'heure. Parce qu'on a beaucoup parlé d'Amboise, mais peut-être que vous avez envie aussi de faire d'autres châteaux. Donc, n'hésitez pas. Chacun de ces châteaux-là propose des choses. Il y a des ateliers partout. Il y a des très belles choses à découvrir partout. On peut peut-être citer d'ailleurs un peu les thèmes. Alors, je vais les faire de mémoire. Donc, j'espère que vous allez être indulgents. Donc, on va commencer par l'envers. Au château de Villandry, la thématique Noël au Pays des Châteaux, c'est Noël en famille. Puisqu'il faut savoir que la famille propriétaire château est à la fois américaine et espagnole. Donc, on aura un mélange de traditions de Noël espagnole et américaine. À Azay-le-Rideau, on va être sur la gourmandise et les chocolats. Donc là, on va, voilà, c'est le thème d'Azay-le-Rideau. À Chinon, on est sur le thème des contes. Et là, cette année, c'est le conte Casse-Noisette qui va être détaillé. Joli. C'est super beau. À Chinon, on va être sur la thématique. La thématique, c'est au pied du sapin. Donc en gros, c'est les jouets. Donc on va avoir une ribambelle de jouets, des plus récents. Et je sais qu'il y a une console qui a été mise en place. On peut jouer sur une console un peu vintage. Et puis ça va aller jusqu'aux jouets en bois les plus anciens. Chenonceau, qui est toujours une magnifique étape à Noël, hein, avec l'équipe de l'atelier floral qui va faire des superbes compositions autour des animaux fantastiques, donc cette année. Langeais travaille sur tout ce qui est lumière. Donc le château est en lumière, donc il y a plein de bougies, c'est assez superbe. Et je crois que je n'ai oublié personne. Ça doit être bon.
Il en manque un, la forteresse de Loche.
Je l'ai dit, la forteresse de Loche, c'est les contes.
Eh ben, j'ai inversé. Ouh, la fatigue.
Non,
déjà,
mais c'est pas grave.
C'est
les collègues de Loche seront ravis. On les aura cités deux fois.
Voilà. Et est-ce que du coup, le château d'Amboise, vu qu'on a bien parlé de cet événement, proposera plus tard d'autres événements comme ça dont on pourrait parler maintenant?
Il se passe plein de choses au château d'Amboise, toujours. Ce que je peux vous dire ici, un peu en avant-première, c'est que l'année prochaine, on va avoir une grande thématique autour du voyage. Le voyage qui est dans nos vies à nous, hein, tous autant étudiants, vous voyagez, on voyage tous. Et on va essayer de vous montrer que même à la Renaissance, le voyage était déjà quelque chose de très ancré dans les mœurs. C'est-à-dire que les rois voyageaient, les cours voyageaient. C'est à la Renaissance qu'on a découvert l'Amérique, qu'on a découvert la voie de contournement de l'Afrique, qu'on a ouvert les voies vers l'Orient, les premières routes de la soie. Donc on va avoir une très belle exposition sur ce sujet-là. Et puis on va avoir aussi des très beaux rendez-vous pendant l'été. Alors ça, c'est mon petit péché mignon. Donc les pique-niques panoramiques, donc je vous expliquais en début d'émission que le château d'Amboise était un château qui était perché entre le ciel et la Loire, donc on a vraiment une vue magnifique, les couchers de soleil sont superbes. Et donc là, bah, si vous êtes déjà à Nagenta, 27 juin, 14 juillet et 7 août, on aura des pique-niques, c'est-à-dire que vous venez avec votre pique-nique, l'entrée est réduite, tarif très réduit, et on profite des jardins. En fait, on s'installe sur les pelouses, puisqu'il faut savoir qu'au château d'Amboise, les pelouses sont autorisées. Donc on va s'installer sur les pelouses, on va profiter juste du lieu, il y aura un petit peu de musique. Le 14 juillet, c'est la première fois que les gens pourront regarder le feu d'artifice depuis les remparts, wow, dans l'histoire du château. Et le 7 août, on va travailler sur l'observation des étoiles, puisque c'est la nuit des étoiles filantes. Donc vous voyez, on aura comme ça un petit pique-nique, on profite, et puis derrière, il y a une petite animation un peu sympa. C'est des petits tarifs, hein. On est à 5€ pour les enfants et 7€ pour les adultes, étudiants, donc ça va même être un petit peu moins. Donc voilà, profitez. Moi, je vous donne rendez-vous pour les pique-niques panoramiques, ça va être très sympa, avec la copine, avec la copine. Bras dessus, bras dessous, c'est un super endroit.
Vraiment, je suis étonnée, parce que c'est vrai qu'on a tendance à entendre parler du château d'Amboise comme le château d'Amboise, mais c'est vrai qu'on ne se rend peut-être pas compte de tout ce qui est en parallèle et de tout ce que ça peut apporter, même en connaissance extérieure au château et à l'histoire, en fait.
De toute façon, les châteaux, si vous avez encore en tête le château musée avec 1,5 cm de poussière sur tout, c'est plus ça du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les châteaux, c'est des lieux vivants, c'est des lieux... Nous, par exemple, on a fait un concert de musique électro, on a vu que Sting allait être à Chambord... voilà, c'est aujourd'hui des lieux où il se passe beaucoup de choses, où vous êtes bien sûr les bienvenus, c'est-à-dire ne vous sentez pas exclu de venir au château, c'est pas réservé à des gens qui maîtriseraient l'histoire de France de A à Z, pas du tout, c'est ouvert à tout le monde. C'est notre patrimoine, ça, c'est autour de chez nous, c'est patrimoine français, venez le découvrir, quoi. Vous verrez qu'il s'y passe plein de choses, des choses très amusantes toute l'année, chez nous comme ailleurs, hein. Encore une fois, je parle pour château d'Amboise, mais c'est vrai pour les autres châteaux qui sont dans la région. Soyez curieux, regardez, on a des sites internet, et oui, les châteaux ont des sites internet, ils ont des pages Facebook, ils ont des pages Instagram, on est super moderne. Donc regardez, renseignez-vous, je suis sûr qu'il y a des choses qui vont vous plaire. Alors est-ce que ce sera cet hiver, est-ce que ce sera plutôt au printemps ou cet été? Vous trouverez forcément un prétexte à venir nous voir.
Bah dans tous les cas, ils ne bougent pas les châteaux, ils attendent, ouais. Ils attendent les visites.
Ça, ouais, c'est à peu près sûr.
Et bah, vu que vous l'évoquiez, on va peut-être maintenant parler des informations pratiques, de type comment on accède, comment on vient. Voilà, et puis comment vous retrouvez sur les réseaux aussi, quels sont les réseaux, les pages Facebook, tout ça justement.
Alors déjà, soyons fair play et collectif, donc pour Noël au Pays des Châteaux, il y a un site internet, www.noelaupaysdeschateauxopériel.com, donc là vous retrouvez les présentations des 7 châteaux dont je vous ai parlé. Château d'Amboise a un site internet. Le Château d'Amboise a une page Facebook, un compte Twitter et un compte Instagram. Donc là, on les alimente tous les jours. Donc vous verrez, il y a plein de choses, des choses rigolotes. N'hésitez pas à les regarder. Et puis, si vous voulez venir nous voir, ben alors, soit vous avez un véhicule. Là, vous êtes les champions du monde. Vous avez juste à prendre la route de bois. Hein. Il faut aller 25 minutes pour arriver au château d'Amboise. On suit les panneaux. C'est assez simple. On a assez peu de chances de se perdre. Et puis, si vous n'avez pas de voiture, ben il y a le train. Alors, bon, peut-être pas demain.
Peut-être voilà, pas demain. C'est malheureusement bon.
Demain, ça va peut-être un peu compliqué le train. Mais sinon, c'est très simple. Vous prenez le train à la gare de Tours, à la gare de Saint-Pierre. Ça va vous coûter 4 euros. Vous allez arriver à la gare d'Amboise. Vous allez marcher 5 minutes et vous arrivez face au château. Et vous passez une super journée. Vous allez au château, pourquoi pas au Colussé. Un petit chocolat chaud à la pâtisserie Bigot, qui est la grande pâtisserie du château, de la ville d'Amboise. Et puis on repart le soir, c'est très simple, il n'y a pas d'excuses.
Et je sais que même pour les plus sportifs qui font du vélo, il y a
Loire à vélo. La Loire à vélo va à Amboise.
Voilà.
Et puis on accède aussi en train à Chenonceau. On accède en train à Langeais, on accède en train à Azay-le-Rideau et à Chinon. Loche, il faut peut-être plus prendre un autocar, mais on peut aussi y aller, c'est accessible. Donc tous les châteaux partenaires, Villandry c'est à côté, on peut aussi y aller en vélo ou en voiture, c'est simple.
Eh bah, merci beaucoup pour toutes ces informations
mais
et puis toutes ces connaissances, parce que j'ai appris beaucoup de choses aussi maintenant tout de suite. Et puis on se donne rendez-vous pendant cet événement à s'y retrouver auprès des nounours du coup.
Avec grand bonheur.
Eh bien, merci beaucoup. On va passer une petite musique avant de partir sur l'agenda. Et on va passer, hop là, du Tame Impala avec The Less I Know, The Better, pardon.
Done. you gonna do now?
Et oui, comme vous l'avez deviné, car en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'heure de l'agenda. Et on commence tout de suite avec, encore une fois, une évocation à un château. Car cette année, au château de Selles-sur-Cher, le nouvel an chinois dure 2 mois. Effectivement, depuis le 1er décembre dernier et jusqu'au 2 février, venez découvrir le monde fantastique de la Chine et sa féerie de lumière. 39 sculptures lumineuses réparties en 5 thèmes sur 5 hectares. C'est donc tous les jours... Donc c'est aucune raison de pas y aller, de 18h à 23h, dans le cadre sublime du château de Selles-sur-Cher. Chaque premier mercredi du mois, du coup, aujourd'hui, le Bistrot 64 vous invite pour un apéro, salon, café, discussion. Pas d'ordre du jour, juste un échange autour de thèmes comme les genres, la sexualité, les identités... Ou se prêter des livres, ou créer des projets, ou tout simplement se rencontrer, discuter dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Donc si tout le monde a bien suivi ce que je suis en train de dire, c'est donc ce soir, de 18h à 21h, au Bistrot 64. Et que serait notre agenda d'en sortir sans une soirée dans un bar ? Mexican Palooza, ce soir de 18h à 21h, vous aurez la chance de découvrir, d'avoir des démonstrations et des dégustations de spiritueux du monde. De 21h à minuit, maxi taille, mini prix, c'est toutes les tailles de verre au prix du dessous. Si vous prenez un verre en M, vous paierez le prix du S. C'est donc rendez-vous ce soir de 18h à minuit à l'Outback Bar à Tours. Et notre agenda du soir est assez court, le temps passe et il nous reste encore des petites choses à évoquer. Demain, grève, grande grève générale, donc essayez de prévoir vos déplacements, de penser au covoiturage, dites à vos proches que vous les aimez. C'était le petit moment rappel. Et du coup, ça va être l'heure de se laisser. Il nous reste une petite minute d'émission, donc tout juste le temps pour vous dire que cette émission sera en rediffusion demain matin de 6h à 7h. Que vous pourrez retrouver l'article et le podcast sur toutes les plateformes de la radio, donc le Facebook ou le site radiocampustour.com. À 18h15, vous avez rendez-vous avec le Ghetto Blaster. 18h, tout court, le Flash RFI, comme tous les jours. Demain, pas de sortie, maintenant que, voilà, pour vous le dire, il n'y a pas de sortie, car nous rediffusons les transmusicales. En direct, et oui mesdames et messieurs, ce n'est pas rien, donc on laisse la place pour demain, on se retrouve donc vendredi, moi je vous souhaite une bonne soirée, on vous souhaite de bien vous amuser, et puis je vous dis, comme je vous ai dit, à vendredi.
Radio Campus Tours, 99.5,
et sur internet, radiocampustours.com.